France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Aujourd'hui, une réflexion sur le regard porté sur les femmes dans la littérature contemporaine avec deux romancières qui interrogent les représentations du féminin, les blessures intimes, les forces de l'angoisse et du désir, Agnès Van Vong et Ariane Jousse. Bonjour Agnès Van Vong.
Bonjour Mathias Sénard.
Vous enseignez les gender studies à l'université de Genève. Vous êtes romancière et essayiste, autrice de plusieurs ouvrages, dont Après l'amour en 2013, Gabriel deux ans plus tard, Dans la jungle en 2016, La collectionneuse en 2019, et plus récemment, Tout ce que le ciel promet, coécrit avec Julie Estève, et vous publiez aujourd'hui Après l'amour encore aux éditions du Mercure de France. Et bonjour Ariane Jousse.
Bonjour.
Ariane Jousse, vous publiez aux éditions de L'Ogre un premier roman intitulé Terreur, un récit de panique peut-être, de rupture avec le monde, en tout cas un récit hanté par l'image, par la découverte du cinéma. Votre roman est traversé par des scènes un peu de dissociation, déconnexion sensorielle, de rapports troubles et difficiles à une perte et à l'image. Comment est-ce que ça commence pour vous, cette terreur ?
Eh bien, la terreur, elle commence dans le corps de ma narratrice, dont on ne sait pas grand-chose au début du livre. On sait qu'elle vit dans une ville qui s'appelle Outside, qu'elle est assez désœuvrée. Et puis, elle entend parler à la télévision de la disparition d'une grande actrice qui s'appelle MV et qui devait animer un grand festival de cinéma. Et alors, ma narratrice va se prendre de passion pour cette disparition, pour cette actrice. Et voilà, cette découverte de cette actrice va mettre en mouvement les choses en elle.
La reconstitution de MV va être un peu le fil conducteur du récit de terreur, Ariane Jousse. Et terreur en soi, c'est non seulement une sensation, mais comme on le voit très bien sur la magnifique couverture des éditions de L'Ogre, c'est aussi quelque chose qui a à voir réellement avec l'image au cinéma et le titre d'un film.
Oui, tout à fait. Terreur, c'est le titre du dernier film dans lequel a joué l'actrice MV qui a disparu. Et donc, en même temps que l'enquête sur la disparition de l'actrice menée par ma narratrice, le lecteur va suivre l'histoire de ce film, l'histoire de Terreur, le film dans lequel a joué MV.
Donc, MV ne se présente pas à l'ouverture du Festival international du cinéma d'Outside. Et cette absence, ça devient très vite l'obsession de cette narratrice qui va chercher un peu à fabriquer un portrait en creux, c'est un portrait dans l'absence de MV, en se demandant toujours qui elle est. Est-ce que au départ de Terreur, il y avait cette interrogation sur la personnalité ou la personne de la comédienne, ce qu'elle devient quand elle n'est plus qu'une image sur l'écran?
Oui, tout à fait. Alors, en réalité, l'obsession, tout au long du livre, elle mute. C'est-à-dire que la narratrice est d'abord fascinée par la beauté du visage de cette comédienne, par l'opacité de son visage. Donc, elle va se lancer dans des recherches effrénées sur elle, sur sa vie. Elle ne trouve rien. MV est un peu un signe vide, à vrai dire. Et puis, en se plongeant dans ce film Terreur, ce film dans lequel a joué MV, elle va peu à peu se prendre de passion pour le personnage qu'elle incarne, qui s'appelle Jenna. Et voilà, et c'est la découverte de ce personnage, la plongée dans ce personnage, qui peu à peu va faire évoluer ma narratrice et va l'aider à accéder à son corps et à retrouver son corps.
Mais justement, qu'est-ce que c'est que le corps de la comédienne, en fait, alors? Où est-ce qu'il est? Puisque là, on a un peu un triangle assez complexe. C'est à la fois vous qui écrivez, c'est-à-dire que ce sont des mots, c'est de la littérature, donc c'est un regard entièrement littéraire sur un sujet qui est à la fois le corps de la comédienne en dehors de l'écran, et puis surtout le corps à l'image.
Oui, à vrai dire, ce qui m'a intéressé dans cette question du corps, c'est que ce film Terreur a été réalisé par une femme. C'est une réalisatrice féministe et donc elle propose de ce corps de la comédienne une vision féministe, un female gaze, qui permet non plus de voir le corps des femmes, le corps de l'actrice comme un objet de désir, ce qui est la tradition du male gaze, c'est-à-dire d'à peu près 98% des films qui ont été réalisés jusqu'ici, mais comme le lieu d'une expérimentation, un lieu de perception, quoi. Et donc, ce qui intéresse ma narratrice, c'est de considérer ce personnage, Jenna, comme un sujet. Et donc, en voyant évoluer cette actrice, peu à peu, il y a un dialogue qui s'installe entre le corps de l'actrice, son corps à elle. Et ça, c'est permis par le female gaze, par le regard féminin de cette réalisatrice féministe.
Et ça, elle va le découvrir, la narratrice, justement, au fur et à mesure de son visionnage, de sa découverte de ce film terreur, cette subtile transformation, petit à petit, du regard sur la comédienne. Mais est-ce que l'absence de MV, c'est pas aussi, justement, une façon d'interroger la trop grande présence, peut-être, des comédiennes en dehors du film? Justement, ces questions de festival sur lesquelles vous revenez souvent, de qu'est-ce que c'est qu'un festival de cinéma, à quel point... C'est quand même une vraie question sur comment est-ce qu'on y vit, comment est-ce qu'on y est, comment est-ce qu'on les habite en dehors justement de ces objets que sont les films.
Oui, en réalité, ce que fait ma narratrice, c'est qu'elle dépasse complètement cette idée de la star médiatisée. Alors au début, c'est ce qui l'attire, hein, bien sûr. Dans sa pulsion scopique, elle est complètement... séduite par cette espèce de star system, et puis après, très vite, ce qui l'intéresse, c'est ce à quoi ça renvoie chez elle, quoi. Donc il s'agit beaucoup plus d'une exploration de ce que lui fait intérieurement et de ce que fait à sa terreur intime cette actrice.
Mais vous, alors Ariane Jauss, pour vous, c'est quoi votre relation au cinéma? Est-ce que vous avez été comédienne, réalisatrice? Est-ce que vous avez beaucoup regardé des films ou pas?
Alors moi, j'ai été très amoureuse, très jeune, d'actrice. Très tôt, fascinée... obsédée par des actrices, voilà. Et donc, en fait, j'ai voulu écrire ce livre pour interroger, pour questionner cette fascination et pour comprendre pourquoi j'étais fascinée et ce que ça me faisait. Et je me suis rendu compte que ça me mettait en lien avec ma vitalité et une pulsion de vie incroyablement folle.
Ariane Jauss, dans Terreur, on a l'impression que c'est toujours une image manquante. C'est justement celle que cherche la narratrice. On va essayer de pas tout dévoiler non plus. Mais en même temps, voilà, il manque toujours quelque chose. Comme si la quête de la comédienne, à travers le cinéma, pour la spectatrice, elle est toujours frustrée par quelque chose qui manque. Comme si on n'arrivait jamais à aller assez loin pour réellement percevoir l'actrice.
Tout à fait. Et justement, c'est assez intéressant à mon sens parce que l'idée de la star de cinéma, ça vient de l'étoile. L'étoile en latin, c'est sidus. Et l'idée du désir, étymologiquement, c'est décidéré, le désir. Donc c'est le manque de l'étoile, quoi. Donc il y a l'idée de ce manque qui meut ma narratrice, l'image manquante. Et voilà, et c'est ce qui met en mouvement son désir. Et c'est aussi ce qui va la ramener à la vie. Le manque de l'étoile, le manque de la star qui la meut et qui l'anime.
Alors, il faut dire quelque chose des lieux du roman qui sont eux aussi assez cinématographiques, complètement inventés, en tout cas qui sont à la fois des reflets de lieux. On imagine le festival de Sundance, par exemple, dans le festival d'Outside, mais ça pourrait être n'importe quel autre festival avec un nom américain. Et puis, il y a cet endroit, Palama Beach, où se trouve la narratrice et qui a un lieu assez fascinant, qui à la fois paraît très réel, mais qui est en même temps assez mental, un paysage presque tellement vu en réalité, tellement cinématographique, qu'il nous apparaît presque comme artificiel.
Oui, complètement. Alors cet endroit de Palama Beach, il s'agit des
une
lieux...
Une station du... balnéaire.
Oui, tout à fait. C'est le lieu du tournage du film. Donc ma narratrice, obsédée par ce film, se rend sur le lieu du tournage. Et donc elle se retrouve elle-même en crise dans une station balnéaire sous 45 degrés, avec des palmiers partout, plus ou moins défraîchis par la canicule. Et elle erre à l'intérieur de cette station balnéaire, tout à fait.
Et Ariane Jauss, là aussi, c'est aussi un rapport à la double image de ce que c'est que le cinéma et sa réalité. Est-ce que on peut finalement trouver les lieux d'un film?
On peut se rendre sur des lieux qui font écho en nous à des images profondes. On peut se rendre dans des lieux qui représentent l'absolu du cinéma, complètement exagéré. Mais effectivement, je pense que le lieu des images fortes, il est en nous et il n'existe pas réellement à l'extérieur. Alors on a les studios d'un film qui peuvent reproduire ça, mais bon, c'est en nous que se trouve le cinéma.
Mais vous, Ariane Jouz, quand vous écriviez Terreur, est-ce que vous êtes allée justement retrouver le lieu de tournage de certains films mythiques pour construire l'ambiance du roman ?
Tout à fait. Je suis allée à Stromboli deux fois pour m'immerger dans l'ambiance d'une île italienne et à vrai dire dans l'ambiance du film de Bergman et du film de Justine Triet qui s'appelle Sibylle et qui est un peu la matrice de terreur dont la majeure partie de l'histoire se passe à Stromboli. Voilà, je suis allée sur l'île et sur le volcan et dans cette île méditerranéenne, sauvage et je m'en suis beaucoup inspirée pour Palma Beach.
Pourtant, les noms que vous prenez sont plutôt américains, comme s'il y avait une orientation plutôt vers Hollywood, de toutes les références autour de Terreur, du nom des comédiennes, alors que vous venez de citer un film tout à fait français.
Oui.
Peut-être parce que l'image du cinéma universel, elle est plus tournée vers les États-Unis, ou elle provient plus des États-Unis.
Oui, sans doute. À vrai dire, dans Palma Beach, je crois qu'il y a quelque chose d'assez durassien, mais c'est plutôt le cinéma italien qui m'a inspirée, donc Rossellini, Antonioni, surtout, pour ce livre.
Ah oui, c'est plutôt le cinéma italien.
Ouais.
Mais en même temps, il y a toujours des indices qui sont un peu des fausses pistes, en fait, puisque le personnage de MV dans Terreur s'appelle Jenna, qui est elle-même Jenna Rollins, comédienne absolument mythique, entre autres de John Cassavetes. Et je pouvais pas m'empêcher de voir, enfin en tout cas d'imaginer le visage de Jenna Rollins en lisant le livre.
Oui, alors c'est tout à fait voulu. En réalité, moi j'ai pensé au visage de Monica Vitti en écrivant ce livre, qui est d'ailleurs sur la couverture du livre, dans La Ventura. Mais oui, disons que plusieurs actrices ont inspiré le personnage de MV, de sa narratrice, Jenna Rollins, pour la folle liberté de ses gestes, pour sa confusion mentale dans Opening Night, et puis le visage opaque de Monica Vitti qui m'a bouleversée.
Est-ce qu'on peut rentrer dans un film ?
Je pense qu'on peut rentrer dans un film, ou en tout cas, peut-être qu'on peut tourner autour. Moi, j'ai longuement tourné autour de films, et puis peu à peu, je crois que je me les suis appropriés, que je les ai incorporés, et que je m'y réfère maintenant sans cesse. Les comédiennes peuvent entrer en soi, je crois, en tout cas leur personnage.
Alors Terreur est justement le film qui est au cœur du roman, au double sens très simple hein, de ce que c'est que la terreur, qui n'est pas tout à fait la frayeur d'ailleurs, cette terreur sans doute pas, mais qui est aussi ce film qu'on voit tout au long du roman. Et là, il y a une espèce de gageur, de défi, presque une aporie, qui est écrire un film, c'est-à-dire d'écrire certaines séquences qui sont bien marquées dans le texte, en italique, on voit qu'on est dans un autre langage, on décrit, en tout cas la narratrice nous décrit certaines séquences, alors elle a même un rituel pour le visionnage du film, elle le prend un peu comme une cérémonie presque païenne de voir ces images, de quelle façon il faut les regarder, et elle nous les décrit, elle nous en donne certaines séquences. Est-ce qu'on peut écrire le cinéma ? Parce qu'on a l'impression que de toute façon, tout ça, ça reste de la littérature. C'est un peu le défi, mais en tout cas, une espèce d'aporie. Dans le livre, on peut pas. Finalement, ça reste des mots. On les imagine, mais on va jamais voir Terreur.
Tout à fait. Et en réalité, c'est plutôt l'écriture, non pas d'un film, mais d'une femme qui regarde un film. On est dans sa tête, on est dans son désir, on est dans sa terreur, qui l'a fait d'ailleurs regarder le film de manière complètement fragmentée, désordonnée. Elle est beaucoup trop effrayée pour le voir en entier. Donc la manière dont elle voit ce film est le reflet de sa terreur. Oui, donc en réalité, non, peut-être qu'on ne peut pas, on ne peut pas écrire un film, mais on peut écrire le regard qu'on a sur un film.
Cette terreur qui est doublement au cœur du livre et qu'on va découvrir petit à petit, en tout cas dans ses pourtours, et de quelle façon elle agit sur la narratrice. Est-ce que c'est une façon de communiquer justement par l'émotion la plus forte avec le cinéma ? Est-ce que le cinéma nous montre aussi nos propres émotions ?
Sans doute. Ma narratrice est, au début du livre, sidérée, terrorisée, incapable de quoi que ce soit. Et alors le cinéma, dans l'étymologie du cinéma, c'est le mouvement. Hein. Kinéma en grec, c'est le mouvement. Donc le cinéma va peu à peu remettre de la vie dans ses affects. Et oui, le cinéma l'aide à revenir à la vie. Et donc la terreur, c'est l'affect commun à tous les personnages de ce livre, à la narratrice, mais aussi à l'actrice, et puis à un enfant qu'on rencontrera plus tard dans le livre. Donc on ne sait pas exactement pourquoi cette terreur. Il n'y a pas d'explication psychologique. En revanche, il y a des images, des hantises qui la traversent.
Oui, des hantises, mais ce qui hante la narratrice, c'est justement un rapport à autrui. C'est pas là que se joue la hantise, justement. Elle est quand même hantée par une présence.
Elle est hantée par une présence. Et alors, au début, elle sait pas du tout quoi en faire. Elle culpabilise peut-être même. Elle a peur de s'approprier, de vampiriser cet autre, justement. Et puis, peu à peu, justement, c'est cette fascination pour cette femme qui va l'aider à communiquer avec autrui et qui va la rendre au monde.
Et alors, de quel ordre est cette fascination? Parce que ça commence justement par la nage, le crawl, le corps, la façon dont elle se meut à l'image. Et puis, petit à petit, ça évolue justement vers autre chose.
Ça commence par une pulsion scopique, par un désir.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une pulsion scopique alors,
la pulsion scopique, c'est le fait de voir quasiment en voyeuse cette femme. Donc elle ne comprend pas pourquoi son regard est aimanté par cette femme qu'elle ne connaissait pas. Hein. Vraiment, elle en entend parler à la télé et puis elle est fascinée, elle enquête, elle ne peut pas s'en empêcher. Et puis peu à peu, en rentrant dans l'histoire de ce film, en se prenant d'obsession pour ce personnage, vu par une femme, par la réalisatrice, c'est important, hein, vu par un regard féminin, elle va éprouver ce que ressent le personnage et elle va être elle-même rendue à sa sensualité.
Alors le monde du cinéma, cette citation de Bazin qui est au début du générique du Mépris de Jean-Luc Godard où il dit « Le cinéma invente un monde qui s'accorde à nos désirs », là c'est un peu presque l'inverse, c'est la narratrice qui se voit imposer un peu plutôt ce qu'elle est et ce qu'elle désire par le cinéma. C'est un peu comme si le geste était aussi dans les deux sens, il y a une espèce de réciprocité là, où la réalisatrice du film Terreur finalement réussit presque à rentrer en communication avec la narratrice.
Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est très beau, parce que c'est un désir, ce regard féminin, il place au centre le désir des femmes. Et donc, plutôt que de se voir imposer le désir de la réalisatrice, en réalité, elle est mise en contact avec le sien qui était bien caché, en tout cas auquel elle n'avait plus accès depuis longtemps. Et donc, c'est ce film qui va l'aider à retrouver la source de son propre désir et de son propre plaisir.
Est-ce que c'est... pour vous, une caractéristique de ce passage du regard masculin au regard féminin, que cette possibilité de renvoyer plus vers une forme de liberté du désir dont une spectatrice était en quelque sorte écartée.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en écrivant ce livre, j'ai beaucoup pensé au livre d'Iris Bray, qui s'appelle Le Female Gaze, le regard féminin, dans lequel elle définit justement ce regard féminin. Et alors, elle donne trois critères de définition. Elle dit que le regard féminin dans un film, c'est l'interrogation des rapports de domination. Et puis le fait de communiquer, de sentir les émotions et les ressentis d'un personnage féminin et d'engager le corps du spectateur, de la spectatrice. Et par ailleurs, c'est le fait de redonner à une femme sa subjectivité entière. L'héroïne du film, le personnage du film, n'est plus l'objet de désir d'un personnage masculin et du spectateur, mais devient un sujet pleinement.
Mais est-ce que vous pensez que c'était pas possible dans les films tournés par les hommes, justement, comme Antonioni ou Rossellini?
Complètement. Il y a du female gaze chez certains hommes. Moi, je pense que La Ventura, par exemple, d'Antonioni, c'est du female gaze. Monica Vitti est pleinement sujet. Elle erre en Sicile. C'est elle qui est le sujet du film et on sent son corps dans ce film, tout à fait. Bien sûr, le female gaze peut être un regard d'homme aussi.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Ariane Jousse, dans Terreur, finalement, le retour de cette transformation cinématographique passe aussi par le monde du cinéma. Et le monde du cinéma, c'est le monde de la technique et de la technologie. Le livre est plein, justement, de cette façon qu'on a d'aborder l'image, non seulement par la projection, mais aussi ce que c'est qu'un tournage, les techniciens, un rapport extrêmement, extrêmement matériel. Et on voit que c'est ça aussi qui vous a absolument intéressé dans l'écriture de Terreur, ce rapport au cinéma comme la façon dont il est fait.
Oui, tout à fait. Je dirais le rapport à l'image plus largement, la manière dont il est fait, la manière dont surtout la réalisatrice que je mets en scène dans le livre regarde son actrice, la manière dont du coup ça joue sur la façon dont elle est filmée, tout à fait. Et puis plus largement aussi la manière dont ma narratrice stalk sur tous ces écrans d'ordinateurs, de téléphones, sur les réseaux sociaux. Cette actrice, donc, c'est un roman qui est rempli d'images, d'écrans, d'espionnage.
Oui, d'espionnage, et puis aussi de ce rapport. Comment est-ce que le collectif parvient à quelqu'un qui est finalement extraordinairement solitaire ? Parce qu'en réalité, cette narratrice, elle n'a pas beaucoup de vie, enfin en tout cas celle qui nous apparaît là, elle n'a pas beaucoup de vie en dehors de ses obsessions.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est la manière dont oui, une œuvre collective, oui, la touche, enfin en tout cas la rend au monde, oui.
Et peut-être cette terreur, alors j'ai pas envie d'entrer plus dans les détails, on va dire qu'elle a un rapport justement voilà, avec un passé, un désir. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut-être une piste vers nos, justement, désirs les plus profonds et les plus cachés, en fait, en réalité.
Oui. Ma narratrice, au début, n'a pas une conscience d'elle-même très développée. Et c'est le fait de regarder ce film qui la met en contact avec son intériorité, avec sa terreur, avec ce qu'on peut qualifier avec ses traumatismes, quoi. Et donc c'est ce film qui va l'aider à les comprendre et à les dépasser. Et de même que pour l'actrice du film, son personnage, on devine qu'il est traumatisé. Alors, il y a une scène traumatique qui est évoquée à la fin du livre avec une éruption volcanique. Bon, mais on sent qu'il y a des traumas, il y a des scènes primitives qui sont plus ou moins évoquées, dont je fais parfois l'ellipse, mais on sent qu'elles sont là et c'est ce qui fait le cœur du labyrinthe.
Donc on a parlé de ce cinéma italien qui est un peu à l'origine de terreur, mais est-ce que dès le départ pour vous, dans l'écriture du roman, vous avez fait comme une série de scènes de films où vous êtes dit « Ah, je veux raconter ça, ça, ça et ça » et qui ont nourri la construction du roman ?
Tout à fait. J'ai d'abord écrit le scénario de ce film dans un ordre chronologique très strict. Et puis après, ça a été un travail avec mon éditeur de restructuration, de mise en désordre de ce film. Donc je l'ai complètement déstructuré, puis restructuré après à l'intérieur du livre.
Mais on est bien d'accord, ce film a été écrit pour un roman. C'est pas un scénario que vous pourriez proposer à un cinéaste ou une cinéaste, en l'occurrence, pour être tourné aussi.
Alors moi, j'avais le film dans ma tête, hein. J'avais les images du film très clairement avec le visage de Monica Vitti. Mais non, c'est un film qui est écrit pour un roman intégralement. Après, bon, il existe très clairement, mais non, c'est un film de papier.
Elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais. Même si t'es une fille. Elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir.
Agnès Van Nouvenc, cette question du désir et de la découverte du désir, elle est aussi au cœur de votre œuvre. Et dans Après l'amour encore, c'est aussi une façon de transformer, en tout cas pour la narratrice, que nous retrouvons donc d'une qu'on avait déjà rencontrée dans Après l'amour 1, ou Après l'amour tout court, avant Après l'amour encore. Et là aussi, une question de transformation du passage justement du désir à l'amour, ou de l'amour au désir, puisqu'elle nous explique au départ qu'elle n'a pas connu l'amour depuis déjà une dizaine d'années, et qu'elle va peut-être, en tout cas c'est ce qui semblerait être au fil du texte, le retrouver. Est-ce que c'est ce passage-là, justement, du désir à l'amour, qui pour vous, bien que le texte s'appelle « Après l'amour », ce qui est un peu aussi paradoxal, est-ce que c'est pour vous le parcours du récit ?
Le parcours de ce roman, il est séquencé de la façon suivante. Il y a une première partie qui se passe à Paris et une partie qui se passe à l'étranger, en Asie. Et en effet, dans cette première partie qui engage une certaine vitalité de la narratrice à partir de ses rencontres pleines de désirs, disons sexués, on a dans la deuxième partie un glissement vers une vision plus romantisée de l'amour. Avec cette rencontre avec cette femme qui s'appelle Garance et qui est le personnage qui est donc l'objet de désir de cette femme, cette héroïne qui s'appelle Dune.
Alors au départ, cette héroïne qui s'appelle Dune, au départ, elle est justement, elle va explorer d'autres formes de rencontres. C'est un peu le thème de la première moitié du livre. De quelle façon est-ce qu'on va accéder à autrui par les applications de rencontres qui vont occuper une grande partie de sa sexualité et de son désir pendant quelques temps.
C'est une de ses amies qui l'inscrit sur un site de rencontres. Et donc elle va comme la narratrice d'Après l'amour engager une sorte d'enquête et de quête. Et l'amusement de l'écrivaine que je suis, c'était de me donner une règle qui est une référence. J'ai pensé en fait à l'Oulipo et je me suis dit que cette narratrice pouvait rencontrer 6 femmes pendant 6 mois et en choisir une. Si bien que le roman que je voulais écrire ressemblerait à une sorte de bachelor lesbien, c'est un jeu littéraire. Et donc les applications de rencontre, qui est une forme de sociabilité lesbienne, contemporaine, j'avais envie de m'y plonger et de penser ce qu'est la rencontre aujourd'hui. Comment rencontre-t-on les gens, finalement ? Et à partir de cela, eh bien, j'ai eu l'idée d'écrire la suite d'Après l'amour.
Alors la rencontre se décline dans le texte de façon très, très différente. Une rencontre dans la première partie du récit qui passe par les applis et une sexualité extrêmement d'aujourd'hui et contemporaine. Mais finalement, la seconde partie du texte s'ouvre par la rencontre avec Garance, comme vous l'avez dit, et où là, c'est plutôt une rencontre complètement analogique et qui a lieu comme de tout temps, en fait, comme ça, un peu par hasard, sans qu'on puisse présupposer par l'appli de la possibilité de cette rencontre.
Eh bien, contrairement à toute attente, la rencontre ne se fera pas derrière un écran. Elle va se faire dans la cabine d'essayage d'une enseigne qui s'appelle Monoprix, rue de Rennes. Et le roman, à partir de là, s'engage vers quelque chose de très romanesque, peut-être un roman d'aventure amoureux. Et j'avais envie de travailler sur la notion de réel, qui sont ces deux femmes, d'entrer dans la profondeur des personnages. Parce que dans la première partie, les rencontres sont successives, elles se passent très vite. Et avec ce personnage de Garance, eh bien, on prend le temps de savoir qui est l'autre, on prend le temps de développer ce personnage et on découvre finalement cette figure qui est l'altérité.
Alors pour entrer un peu dans les détails de la première partie, qui est parfois justement drôle, surprenante, c'est un peu comme si on nous expliquait comment fonctionnent justement ces applis de rencontre et la diversité qu'il y a derrière. C'est ça qui est possible aussi, peut-être plus facilement que dans la vie ou dans les rencontres analogiques. C'est justement la diversité des personnes qui sont un peu avides de rencontres sur ces applications et la possibilité qu'on a de rencontrer des gens que on ne rencontrerait pas souvent, ou en tout cas qu'on rencontrerait difficilement. C'est ce qu'explique Dune, justement, dans son intérêt pour cette appli.
Ces modes de rencontre permettent de sortir des cercles habituels auxquels nous sommes habitués. Et au fond, elle rencontre différents corps de métier également, cette Dune. Elle rencontre une gardienne de prison, ce qui correspond à un stéréotype extrêmement genré, la gardienne de prison sexy. Elle rencontre, comme on peut rencontrer dans la vie, une ophtalmologue borgne d'ailleurs. Elle rencontre d'autres... Moi, je suis très intéressée par cette question de que font les gens. Voilà, que font les gens? Quelle est leur occupation? Quelles sont leurs occupations? À quoi renvoie un métier? Nous sommes occupés toute la journée par nos activités professionnelles. Et donc, cette question sociale, hein, des activités que nous menons, ont un impact sur notre rapport à l'autre. Et j'avais envie de circuler comme ça, de façon un peu sociologique et littéraire, dans des imaginaires et dans des milieux qui ne sont pas les miens, que je ne connais pas, et de prêter à ma narratrice une sorte de loupe, comme ça, qui lui permettrait de glisser à travers notre époque ultra-contemporaine.
Agnès Anouvong, les modalités de la rencontre sont différentes, mais aussi l'activité sexuelle ou liée au corps qui est derrière ces rencontres est elle aussi différente. C'est-à-dire que vous explorez là aussi tout un éventail de façons d'être à la sexualité ou au sexe selon ces différents modes de connaissance d'autrui.
Eh bien, dans ces rencontres, il y a un mot-clé qui est le suivant, c'est virtuel. Et effectivement, avec la rencontre avec ce personnage que je voulais attachant et drôle, qui s'appelle Bichette, qui est gardienne de prison d'ailleurs à Fleury-Mérogis, eh bien, il n'y a pas de rencontre physique dans un premier temps. Il y a une rencontre à travers les écrans, et le premier contact, disons, il n'existe pas. Il se fait dans l'imaginaire, un imaginaire que l'autre garde, on est voyeuse. Et parce qu'elles se rencontrent à travers, elles se voient par écran interposé, elles font l'amour, si je puis dire, de façon très solitaire. Et peut-être que c'est la limite, en fait, de ces rencontres numériques, c'est-à-dire ne pas accéder au corps de l'autre.
Mais peut-être justement dans le fait qu'elle soit gardien de prison, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'enfermement, comme si on était à distance de toute façon les uns des autres, même dans la vie. C'est finalement... Cette relation à distance, est-ce qu'elle est plus ou moins satisfaisante que les relations qui se font en présence, en tout cas à travers ces applications?
Non, d'ailleurs, elle ne rencontre pas le grand amour qu'elle cherche. Elle rencontre des femmes qui, peut-être, peuvent se ressembler les unes les autres, même si elles ont des caractéristiques différentes. Elle rencontre des figures, elle rencontre des fictions, quelque part. Et dans une deuxième partie, eh bien... il y a une rencontre plus spéciale, plus incarnée, plus sentimentale, qui s'opère à travers le réel.
Oui, peut-être parce que justement, dans la deuxième partie, les accidents de la vie viennent justement aussi donner du corps et de la puissance à cette relation qui s'établit entre les deux personnages, entre la narratrice d'une et Garance. En revanche, on a l'impression que les applis et les rencontres furtives ne permettent pas finalement l'établissement de rapports qui aillent au-delà de la sexualité, puisque la sexualité est déjà prévue d'avance. Mmh. Et finalement, c'est un peu comme si on commençait par la fin. C'est très difficile de revenir au début, presque. C'est en tout cas ce qui semble être l'expérience de la narratrice. Mmh.
C'est un scénario qui est assez attendu, finalement, ces types de rencontres, qui aboutissent tous à la même chose, c'est-à-dire ce moment d'intimité, ce moment de sexualité. Et moi, j'avais envie de détourner, de raconter cela, parce que c'est une expérience que nous avons peut-être tous et toutes vécue, à un moment donné, à notre époque. Et j'avais envie de montrer également que, non pas que ces rencontres ne valent rien, mais que le réel offre quelque chose de miraculeux qui s'appelle le hasard, qui s'appelle la vraie rencontre dans la vraie vie, et dans cette cabine, dans un endroit qui est tout à fait inattendu pour une rencontre, à savoir la cabine d'essayage à Monoprix.
Agnès Anouvong, est-ce que pour vous, il y a une spécificité féminine du rapport à ces applis, à ces rencontres-là? Est-ce que vous y voyez quelque chose de différent du rapport que pourrait avoir un homme à ces mêmes applications?
Dans la sociologie de la rencontre lesbienne versus gay, on voit bien que ces rencontres lesbiennes, entre guillemets, se construisent sur des modalités qui sont moins basées sur la consommation, parce qu'il y a un besoin peut-être d'un scénario qui se construit lentement, qui se construit dans le discours, le désir il se loge dans le discours, alors que chez les hommes, peut-être gays, c'est peut-être un stéréotype hein, de genre à déconstruire, mais c'est une réalité qu'on nous rapporte. Donc dans les rencontres cétriques, amoureux dont parle Roland Barthes, sont plus immédiates, sont plus rapides, éphémères, et puis ne durent pas. Le scénario romantique est inexistant.
Vous venez de citer Roland Barthes, il y a une scène assez drôle dans le récit où la narratrice Dune s'imagine qu'elle s'est fait tatouer des phrases d'un fragment d'un discours amoureux sur le corps qu'on ne doit pas souvent demander aux tatoueurs quand même. C'est quand même un peu un genre de niche, les phrases de Roland Barthes comme tatouage. Mais en même temps, j'ai trouvé ça assez magique de se dire oui, mais voilà, c'est ce que permet aussi la littérature, de se dire tiens, finalement, je me ferais bien tatouer ceci ou cela, et qu'est-ce que ça donnerait comme lecture de mon corps ? Est-ce que vous croyez à ça, qu'on peut lire le corps de l'autre, finalement, un peu comme s'il y avait une forme de phrasé dans la façon qu'on a de le toucher ou de le regarder? Est-ce qu'on imagine des phrases du fragment du discours amoureux quand on découvre un corps?
Je crois qu'elle se fait tatouer « je t'aime » et « hors dictionnaire », des choses, des phrases comme ça, ou des phrases comme « être amoureux ne ressemble à rien d'autre ».
Où j'attends, il y a ce texte, cette phrase sur l'attente de Barthes qui est assez magnifique. Je sais que je suis amoureux parce que j'attends.
Oui, j'attends. Et cette dune, ça, c'est un prénom paysage, un personnage qui ne cesse de bouger. Une dune dans la près de la plage, au bord de la mer, c'est un espace qui est métamorphique avec le vent. Eh bien, effectivement, elle attend. Elle attend des phrases au fond. Elle attend des mots d'amour à travers ses rencontres, parce qu'elle est obsédée par cette question de l'amour. Elle est dans le discours. C'est un personnage discursif au fond.
Et peut-être dans le roman Après l'amour encore, il y a justement c'est pas une opposition, mais cette espèce de complémentarité entre la façon de décrire la sexualité, le sexe, les rapports sexuels lesbiens d'une façon très très précise, et en même temps de montrer qu'ils aspirent à autre chose, un peu comme si on s'en allait sans laisser pour autant le corps, mais on s'en allait quand même vers un désir qui cherche à se transformer en amour. C'est un peu le sens du texte, en tout cas.
C'est ça. Alors, dans Fragment d'un discours amoureux que vous citiez, il y a cette phrase de Roland Barthes que je cite dans le texte, d'ailleurs. Et la phrase de Barthes, c'est la suivante. Et Barthes écrit « Dans l'époque actuelle, cette espèce d'amour-passion, d'amour romantique, n'est plus à la mode. Ce qui apparaît obscène aujourd'hui, ce n'est pas la sexualité, c'est la sentimentalité. » Il est vrai que dans cette première partie, des rencontres donc à l'heure du numérique, tout est basé autour de la consommation. La sexualité, cette idée de désir qui se cristallise très rapidement. Mais le parti pris de mon roman, c'est justement de prendre le contre-pied de cette phrase de Barthes et d'expliquer au fond que ce qui est obscène, c'est la sentimentalité. Et c'est en ça qu'il y a une transformation de mon personnage, et c'est en cela qu'il y a un glissement et une évolution depuis ce premier roman, Après l'amour, jusqu'à Après l'amour encore. C'est la construction du couple, cette idée que le temps a un vrai travail à faire, le temps est aussi un allié, le temps fait l'amour, et la sexualité n'est pas tout, au fond.
Le temps fait l'amour, voilà, c'est une bien belle phrase.
Pour ce livre-là, puisque j'abordais un thème qui m'était très cher et qui m'était particulièrement, disons, inconnu dans la littérature, il fallait qu'il y ait une référence par rapport à moi-même, à l'auteur du livre, enfin, qu'il y ait, même si c'était symboliquement, une implication de la part de l'auteur du livre. Et donc, je ne pouvais pas écrire avec un autre pronom que « je ». Et ce « je », je ne pouvais pas l'écrire physiquement. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas écrire physiquement « je », qu'est-ce qui se passe, etc. Puis alors j'avais des conclusions différentes, je me disais je suis schizo, pourquoi je suis schizo? Mais les femmes sont schizo. Et ça me rappelait très bien les trucs de Virginia Woolf, tu sais, dans La chambre à soi, il n'y a pas un moment de sa vie où une femme se sente complètement étrangère à ce monde. Elle n'est plus dans cette civilisation, c'est comme si elle venait d'un autre monde, elle est coupée en deux, elle dit même coupée en deux, enfin elle emploie tous ces mots-là pour désigner la même chose, si tu veux. Et je ne savais pas quoi faire avec ce jeu. Le thème du livre, qui était l'homosexualité féminine, ça n'existe pratiquement pas dans l'histoire littéraire, en fait. Et ce jeu féminin qui dit jeu en tant qu'homosexuel, il fallait bien que ce soit un jeu différent. Juste au moment où j'écrivais ce livre, il y avait des filles qui, dans mes groupes de travail, écrivaient jeu avec deux E. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. J'aurais bien voulu l'avoir trouvé moi-même. Tu vois. Moi, j'en étais au jeu coupé. Parce que je suis une femme, cette langue m'est étrangère. Tout le vocabulaire renvoie à cette infériorité biologique de la femme, ainsi soit-il. Je tombe toujours sur les premières choses que j'ai écrites et sur comment l'écriture était pour moi un symbole de séduction d'une femme sur une autre femme, si tu veux. Mais ma vie, à ce moment-là, était bien différente, puisque je vivais absolument dans un monde banal et normal, enfin, où il y avait des hommes et des femmes, et où la situation était extrêmement pénible et difficile, puisque je sentais que je n'existais pas pour les autres femmes. Et ça, ça a été la chose la plus douloureuse que j'ai vécue, tu vois.
Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas exister pour
les autres femmes ? Si je marchais dans la rue et qu'une femme me plaisait, je la regardais, elle fuyait mon regard. Maintenant, ça n'arrive plus, je t'assure, ça arrive de moins en moins. Autrefois, j'avais l'impression, quand je marchais dans la rue, c'était des regards qui me passaient à travers, tu vois. Je me disais toujours, c'est drôle que Germaine Greer a écrit son titre « Femme nuque » parce que je me disais, c'est un mot que des femmes, beaucoup de femmes ont dû penser. Je me disais toujours, mais elles ne me voient pas, mais elles me prennent pour une nuque. Mais j'avais envie, tu sais, j'avais des envies de meurtre par moments qui étaient incroyables. J'avais envie de prendre une femme, de la secouer, de lui dire, mais regarde-moi, mais je suis là, mais je te regarde, et pourquoi tu ne me regardes pas? Tu vois? C'était fou, c'était vraiment un monde très désespéré. J'avais toujours envie de faire des choses extraordinaires pour attirer l'attention des femmes,
tu vois. Tu en as fait des exploits.
J'avais des fantasmes sans arrêt, tu sais. C'était très pénible. Et tout d'un coup, ça a cessé, brutalement. Tout d'un coup, il y a eu un petit groupe de femmes et on existait toutes les unes pour les autres, même si on n'était pas d'accord. On se regardait, on se parlait, mais c'était fou, la différence. Même quand on était 8, c'était déjà un monde complètement différent.
Nous venons d'entendre une archive de Monique Wittig en 1973, Agnès Van Ouwvong, archive mystérieuse. On ne sait pas à qui Monique Wittig s'adresse, on connaît juste la date de l'enregistrement. C'est assez magique de l'entendre comme ça. De voir aussi un peu toute la distance qui nous sépare fort heureusement de 1973 et que ce que peut-être des femmes comme Monique Wittig ont rendu possible, c'est la présence de ce jeu dont Dune est un exemple aujourd'hui dans la littérature.
Wittig, c'est une référence importante pour moi, pour ce livre. Je suis souvent sensible à la naissance des écrivains, à ce premier roman. Et lorsque je pense à l'Opoponax, que Wittig publie en 64, elle a 30 ans, elle est très jeune, elle entre en littérature et vous parlez du pronom personnel « je ». J'avais envie de parler du pronom personnel « on ». Qu'elle utilise dans l'Opoponax, qui est vraiment le pronom personnel caméléon, un pronom indéfini, où le genre circule, où le genre se perd. Et c'est un premier roman qui est très lesbien. D'ailleurs, la critique à l'époque a complètement raté cette dimension lesbienne. Elle a obtenu le prix Médicis pour ce texte. Et c'est un roman qui met en scène des amours féminines à hauteur d'enfant. Dans l'œuvre de Wittig, cette question du pronom personnel, elle est passionnante. Je pense aux guerrières, par exemple. Elle oublie le « on » et elle investit le « elle ». Et ce « elle » au pluriel, c'est un « elle » qui est un jeu démultiplié, un jeu collectif. Et dans mon roman à moi, je voulais que cette question du point de vue soit partagée par mes deux personnages. Je voulais qu'on entende à la fois Dune, qui dit « je », et Garance, qui dit « je », vraiment pour rentrer dans l'intériorité des personnages et pour ressentir ce qu'elles ressentent, pour être avec elles et pour voir le monde de façon différente. Dans l'archive de Wittig que nous avons entendu, il y a cette question du désir qui revient. Comment accéder à l'autre, en fait, et qui est l'autre? Comment désirer l'autre? Et au fond, l'autre est-il un objet de rapprochement possible? Et le roman, il me semble qu'il permet de tisser des liens, de fabriquer des faisceaux lumineux, imaginaires, où nos personnages peuvent se confondre et être assemblés.
Et justement, tous accéder au jeu. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien dans Après l'amour encore, c'est que non seulement Dune dit jeu, mais dans la deuxième partie, on va voir que Garance va le faire aussi, comme si elle accédait à une autre dimension que elle juste l'objet du désir de Dune, mais elle devient aussi une forme de destin. Et ce qui est très touchant, je trouve, dans l'archive aussi, c'est cette façon, ce désir violent, que dit, ça me donnait des envies de meurtre parce que personne ne me regardait. Et cette question de comment est-ce que le regard, justement, a pu changer dans les 50 dernières années, c'est assez fascinant de voir que, voilà, aujourd'hui, on écrit Après l'amour encore, qui aurait sans doute même pas été lu en 1970 ou à la fin des années 60.
Alors, la question du female gaze dont vous parlez, Ariane, je pense qu'on peut peut-être faire un parallèle ici, parce qu'au fond, regarder l'autre, c'est le voir, bien sûr. Regarder l'autre, c'est l'objectiver. En revanche, prendre la parole et dire « je », c'est imposer une forme d'agency, comme dit Butler dans « Troubles dans le genre », ou de reprendre le pouvoir. Dire « je », c'est vraiment ça. Ce terme d'agency, il a un intérêt. Comment elle le définit Butler ? Elle dit que l'agency, c'est la capacité des êtres humains à agir au-delà de ce qui les détermine, au-delà du sexe et du genre. C'est aussi la capacité à résister à des faits ou à des représentations. C'est dire « je », c'est s'inscrire dans le réel, c'est affirmer son point de vue, dire que c'est un point de vue situé. Et moi, je voulais absolument que mes personnages revêtent des caractéristiques qui leur soient propres. Et je voulais inventer des subjectivités très distinctes, très individuelles, parce que ces deux femmes, ces deux personnages, elles sont très différentes. Il y a une femme qui est blonde, l'autre qui est brune, elles sont très différentes. Et en même temps, elles sont dans quelque chose d'une grande proximité. Non pas une fusion, mais elles se sont rencontrées.
Agnès Anouvong, vous êtes un peu au carrefour, justement, d'un aspect plus théorique de votre travail à l'Université de Genève. Et pourtant, vous écrivez aussi, enfin, pourtant non, il n'y a pas forcément d'opposition entre les deux, justement, des romans comme Après l'amour encore. Comment est-ce que l'un se nourrit de l'autre? Comment est-ce que ces deux activités communiquent ou ne communiquent pas?
J'ai longtemps pensé que la théorie s'opposer à la fiction. Et c'est une erreur. Et quand je vois la trajectoire de Monique Wittig, par exemple, je me dis que c'est un exemple assez formidable où la théorie a un impact véritablement sur la création. Et ce qui m'intéresse, moi, au fond, par rapport à ce croisement entre écrire la théorie et écrire la fiction, c'est de me dire que la théorie fait quelque chose, produit quelque chose dans nos existences et produit quelque chose dans notre écriture. Bien sûr, les deux se nourrissent de façon puissante, riche, et je trouve assez formidable de pouvoir mettre dans la bouche des personnages une citation de Barthes, une citation de Duras, une citation de Wittig, une citation de Proust, parce que la littérature est faite de ça. Elle est faite de mots, d'idées, de concepts.
Agnès Anouvong, il y a une troisième partie, ou en tout cas un deuxième moment dans le roman qui est celui du voyage. Et ça, c'est aussi un aspect très important pour, encore une fois, décaler un peu le regard. Donc le roman se construit ainsi. On commence par ces applications, ces rencontres en ligne qui sont une forme déjà de voyage. Puis il y a la rencontre avec Garance. Et enfin, il y a le voyage vers l'Asie, ce qu'on appelle un peu l'Extrême-Orient, et très concrètement la Thaïlande, qui nourrit la dernière partie du texte. Et ça, c'est aussi une façon de rencontre, puisque les deux personnages ont un rapport extrêmement différent avec le même endroit.
Cette deuxième partie du roman, qui est très différente de la première, c'est la recherche de l'Arcadie. C'est la cabane du père que Dune retrouve parce que son père est mort et elle va sur les traces de son père mort pendant le Covid. C'est le rapport à la nature. On est loin de l'urbanisme. Nous sommes loin de tout ça. Ce qui permet au personnage de vivre dans une introspection, de faire un voyage peut-être de l'apaisement, de la recherche des origines, qui est une constante dans mes romans également. Et cette Arcadie, ça renvoie à une utopie pastorale, très loin de Paris.
Une utopie pastorale, mais qui est quand même hantée par la mort. Enfin, c'est pas non plus... vous décrivez ça comme si c'était une forme de paradis, mais c'est quand même un endroit, oui, où la mort est à l'œuvre, où le danger est présent, où il y a la possibilité de la disparition, non seulement la disparition, vous venez de le dire, du père de Dune décédé quelque temps auparavant, mais aussi de la possible disparition de Garance. Enfin, c'est quand même pas un lieu non plus parfait parce qu'il serait lointain.
Oui, c'est un lieu aussi qui lie à une dramaturgie que je voulais forte à ce moment-là, puisque effectivement Garance disparaît lors d'un accident de surf. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de recherches sur le surf, c'est vraiment un sport qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, elle part sur les traces de son père mort, et elle va en chemin, finalement, retrouver celle qu'elle aime. Donc, tout est lié, en fait. Ce paradis, il est d'un point de vue imaginaire, parce que c'est l'Extrême-Orient, on l'a dit, c'est l'ailleurs, c'est le soleil, quelque chose que nous n'avons pas forcément à Paris. Et elle retrouve, au fond, la cabane que son père lui a laissée, pleine de souvenirs. C'est un lieu de mémoire, avec un rapport au temps qui est très, très diffracté, très distancié.
Agnès Vanhoeven, cette cabane, c'est aussi, je l'ai lu un peu comme quelque chose d'aussi symbolique, c'est quand même une cabane, c'est-à-dire ce qui rejoint un peu la simplicité avec en même temps un sentiment de protection. Est-ce que c'est pour vous le lieu de l'amour? Est-ce qu'il faut un lieu à l'amour pour que ça passe justement du désir un peu abstrait et séparé de ce qu'on peut vivre par réseaux sociaux interposés à une forme de réalité de lieu de l'amour?
Dans cette cabane, il n'y a pas grand-chose. Il y a un confort tout de même pour dormir et pour vivre. Et cette cabane, c'est le territoire de ni l'une ni l'autre, au fond. C'est le territoire du père. Elle est dans la jungle. Et cette question de l'appartenance et du territoire, c'est important pour moi d'inscrire cet espace dans un hors-champ, quelque part. Et dans un lieu qu'elles ne connaissent pas, où elles se retrouvent. Effectivement, il faut, en tant qu'écrivain, une chambre à soi. Il faut peut-être une cabane pour des amants, des amantes, en effet.
Agnès Vanhoeven, l'histoire entre Dune et Garance, c'est aussi une transformation même du mode de sexualité qui va s'imposer petit à petit. Et vous avez une immense liberté, quand on vous lit, dans la description justement de la sexualité. Et une liberté qui est très bien, parce qu'elle n'est pas du tout pensée comme étant ou soit subversive ou quoi, non. Juste une espèce de naturel que l'amour, c'est aussi une possibilité du corps et qu'il ne faut pas l'oublier.
Cette question de dire l'amour, de décrire l'amour, pour moi, c'est
de l'érotisme. Qu'est-ce qui est très différent de la pornographie, mais qui en moins utilise des mots très précis pour dire les choses.
Il y a des auteurs qui ont été importants, qui m'ont aidé en fait. Ce sont des auteurs d'ailleurs masculins, Hervé Guibert, notamment Guillaume Dustan, Virginie Despentes notamment. Et j'ai toujours été vraiment sensible à cette question de la frontalité, à la question d'être radical. Parce qu'au fond, pour moi, le geste même d'écrire, c'est d'être radical. Radical, si on pense à l'étymologie, c'est la racine. C'est ce qui ne se voit pas. C'est ce qui est enterré. Et l'écriture et la question de montrer le corps de l'autre, parler du désir, parler de sexualité, c'est sortir du placard quelque part. C'est assumer un désir, dire le réel et reprendre le pouvoir, au fond.
Et vous appréciez justement les mots précis, les phrases brèves. On vous sent dans un style plutôt retenu. C'est-à-dire que pour vous, l'amour, c'est pas au contraire des élans lyriques comme des immenses surfs sur des vagues interminables. Non, c'est quand même dire les choses d'une façon assez précise et brève en fait, dans une forme de voilà. Alors c'est pas de la pudeur, je saurais pas comment le caractériser, mais en tout cas, la langue donne une certaine vision de l'amour.
C'est une vision peut-être assez crue des choses. Un mot est un mot. Moi, j'aime bien cette question de... J'écris de façon assez, comment dirais-je, dans une retenue par rapport à mes premiers romans, par exemple. Bon, Après l'amour, c'était un texte aussi très concis, assez tenu. Et je suis plus dans Less is more. J'aime bien cette économie de moyens, de dire les choses. Et ce qui me passionne de plus en plus, livre après livre, c'est la ponctuation. Et dans ce livre, ce que je mets aussi en place, sont les tirets. Le tiret, c'est une forme de ponctuation qui, à différence de la virgule, permet de prendre une respiration, permet de prolonger la pensée sans la couper. Et je suis plus, effectivement, quand j'écris sur le corps des femmes, dans une phrase brève plutôt que dans une phrase longue, peut-être parce que je me méfie du lyrisme.
Alors, d'où vient on le sent ça, que vous méfiez du lyrisme, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le lyrisme qui vous rend méfiante?
Peut-être que dans le lyrisme, il y a toute la littérature du 19e siècle, que j'aime beaucoup, et peut-être que le grand écart entre le 19e et le 20e siècle, c'est justement la ponctuation. C'est peut-être une vision plus directe des choses, c'est peut-être des images, des métaphores qui vont droit au but. Et je me méfie du lyrisme parce que je n'aime pas ce qui dégouline. Je n'aime pas les sentiments trop appuyés, et j'aime bien ce qui va à l'essentiel.
Vous écrivez « Le destin accompagnait ce roman et cette histoire d'amour ». Est-ce que vous croyez au destin, en tout cas une forme de destin? Parce que c'est un peu le chemin du roman, en fait. Hein, c'est de se dire, ouais, on passe par toutes sortes de possibilités amoureuses, mais il y en a une quand même qui s'impose, lyrisme ou non.
Moi, je crois à fond au destin. D'ailleurs, j'ai écrit un livre que vous avez cité, « Tout ce que le ciel promet », publié au Seuil, qui parle de cette question du destin, qui parle de notre rapport au monde, de la spiritualité, des voyants qui prédisent l'avenir, semble-t-il, des chamans qui reviennent vers le passé pour guérir des traumatismes. Et je crois vraiment que nous avons un chemin qui est peut-être la littérature pour certains, qui peut être la boulangerie pour d'autres. Et ce chemin est semé d'obstacles. Moi, je crois vraiment, je veux dire quelque chose, je crois que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Il y a plus de probabilités que nous soyons entourés, accompagnés de figures invisibles, plutôt que d'être totalement seuls. Et je pense que nous sommes regardés de là-haut et que les gens, nos aïeux, et que ce monde invisible rit en nous voyant. Et voilà. Et la figure du romancier, pour moi, c'est vraiment, de la romancière, c'est vraiment quelqu'un qui voit l'hyper-réel. Voilà. Et qui examine l'existence et les différentes séquences de nos vies et qui raconte, en fait, de façon romanesque, lyrique, crue, ce que le monde est.
Ariane Jousse, la question du destin, elle est aussi là dans Terreur, en filigrane. C'est cette question. Un film, finalement, c'est aussi une vie déjà écrite. Hein, et quand on se projette, comme le fait la narratrice, dans l'obsession, finalement, est-ce qu'on cherche à s'en libérer ou au contraire à se laisser aller à ce destin?
Je crois que l'obsession peut libérer. Et alors, je suis pas sûre de croire moi à l'idée de destin. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans Terreur, le fait de voir un film, de voir un destin déjà écrit, va permettre, par le biais de l'identification qui peut être tellement thérapeutique, va permettre à ma narratrice de se remettre sur sa propre, sur son propre chemin, sur sa propre ligne. Donc peut-être de libérer des possibles qui étaient quelque peu encagés par sa terreur.
Est-ce que vous pourriez refaire Terreur à l'envers, c'est-à-dire imaginer un film où il y aurait une obsession pour un livre?
Tout à fait. Je pense que l'obsession, elle est, on peut la mettre n'importe où, pour n'importe qui et chez n'importe qui. Enfin, pas chez n'importe qui, mais enfin bref. Oui, tout à fait. On pourrait imaginer une actrice passionnée par ma narratrice. Ce serait une
excellente
idée. Exactement. Oui, tout à fait. Mais ça a déjà été fait. Hein.
Merci beaucoup, Ariane Jousse. Terreur est publié aux éditions de l'Ogre. Et merci Agnès Van Nouvong. Après l'amour encore est paru aux éditions du Mercure de France. Cette conversation littéraire était réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Sébastien Royer à la technique aujourd'hui. La préparation en était assurée par Aurélie Marseille. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission sur le site de France Culture ou l'appli de Radio France. Bon week-end. Et surtout, bonne lecture à tous !